RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Certains comme Bill Gates, Hillary Clinton ou Sharon Stone sont des célébrités, d'autres sont de parfaits inconnus. Leur intelligence au-dessus de la moyenne, identifiée par les tests d'intelligence, ainsi que le fonctionnement particulièrement rapide de leur cerveau, confirmé par les neurosciences, font d'eux des personnes aux capacités étonnantes. Certains ont su faire usage de leur fort potentiel et ont réussi leur vie. D'autres, face aux obstacles que rencontre toute différence dans la société, ont du mal à se réaliser. Dans son grand reportage, Alain Pécarec tente d'esquisser un portrait de ces surdoués aux personnalités, on va le voir, atypiques et très attachantes. Anna, que l'on retrouve pour en parler, en direct, dans un quart d'heure.
Ils sont plus d'un million et représentent 2% de la population française. Ils ont été des enfants précoces, de ceux qui s'ennuient à l'école parce qu'ils comprennent tout plus vite que les autres, qui sont hyperactifs et qui n'arrivent pas à s'intégrer. Aujourd'hui, ils sont adultes et on les appelle surdoués ou personnes à haut potentiel intellectuel. L'histoire de leur vie est loin d'être un long fleuve tranquille.
À l'âge de 8 ans, je suis tombé dans une dépression nerveuse. On m'a emmené chez un psychiatre qui m'a mis sous Valium. Ça a eu une conséquence très embêtante, c'est que j'avais des migraines épouvantables et ça a duré 5 ans. Et puis, mon papa, qui était un physicien très pointu, un jour me dit « Tiens, regarde ces tests sur cette revue anglaise. » Et c'était des tests de QI. Et on s'est amusé à les faire ensemble. J'ai été plus vite que lui et il s'est mis dans une colère folle. Je me suis dit « J'aurais dû aller plus doucement parce que ça a fâché mon papa. » Il est parti dans la cuisine, il a dit à ma mère « Mais il est plus fort que moi, c'est pas possible. » Il revient vers moi, il me dit « Regarde ce qu'il y a marqué en bas. » En bas de ces tests, il y avait écrit « Mensa London ». Il m'a dit « Quand tu seras grand, tu iras voir cette association-là, c'est des gens très intelligents. » Et là, mon univers basculait parce que j'étais persuadé d'être un idiot avéré. Je comprenais pas grand-chose, je redoublais mes classes, je faisais rien à l'école. Et donc ça a été une première marche et j'ai pris confiance en moi tout doucement à partir de là.
27 ans plus tard, après avoir fait de brillantes études et créé plusieurs entreprises, Alain Seris a retrouvé l'association Mensa, qui, comme il dit, lui a sauvé la vie. Depuis 10 ans, il est le président de sa branche française. Et à son tour, essaie d'aider d'autres surdoués à trouver leur chemin. Pour faire partie de cette organisation présente dans près de 100 pays, ou tout simplement pour être qualifié de surdoué, il faut avoir obtenu au test d'intelligence un quotient supérieur à 130, la note moyenne étant 200 et la maximale de 160. À Mensa France, ces épreuves, dites tests de Wechsler, sont supervisées par Laurence Duvigneau et Lilian Guillaume.
Dans un test de Wechsler, il y a des épreuves de similitude. Le sujet doit expliquer la similitude entre deux objets, deux concepts. Il y a des suites de séries arithmétiques. Il y a des mots de vocabulaire qui doivent être précisés. Il y a des questions de compréhension verbale. Il y a des questions de mémorisation de suites de chiffres. On explore différentes façons de raisonner logiquement.
Vous allez avoir une suite de nombres, par exemple 2, 4, 8, 16. Et quel est le nombre qui vient compléter la série? Donc là, vous avez une progression qu'on appelle géométrique, on multiplie par deux à chaque fois, et donc le terme suivant serait 32.
Évidemment, plus on avance dans ces tests, plus ils deviennent compliqués. Dans la vie de beaucoup d'adultes, diagnostiqués surdoués tardivement, ils ont été un moment charnière. Benjamin, chef d'entreprise de 29 ans, se souvient très bien du soulagement ressenti lorsqu'il a pu mettre un mot sur sa différence.
Moi, je me posais beaucoup de questions. J'étais pas quelqu'un qui performait à l'école et j'étais pas heureux dans ma vie. Donc ma mère cherchait beaucoup le pourquoi du comment. Moi aussi, je m'interrogeais parce que j'étais dans un état un peu de malaise. Et un jour, ma mère trouve un forum belge qui listait des caractéristiques, en fait, des hauts potentiels. Je me suis dit, la démarche à faire, c'est d'aller passer un test de QI. Et c'est là où, donc, avec tout le stress, de se dire, bah oui, si c'est pas ça, je repars à zéro dans ma quête de qui suis-je, pourquoi. Et il s'est avéré que c'était ça. Et le fait de diagnostiquer ce haut potentiel, de dire c'est un potentiel, donc mon gars maintenant les cartes sont dans tes mains, donc utilise-les. Moi ça m'a servi d'un boost quoi. Je me suis dit si je me sers vraiment de ce que j'ai, je peux blinder mes projets et faire en sorte qu'ils avancent.
Cécile, enseignante dans un collège, s'est décidée à passer un test de QI à la suite des difficultés professionnelles.
Ça a complètement changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis acceptée comme j'étais avec toutes mes différences que je sentais par rapport aux autres. Et je me suis rendu compte que c'était une richesse et qu'il fallait que je les développe au lieu de les cacher. Je compare ça un petit peu à l'image du champignon chinois qui est tout desséché, auquel on met de l'eau et tout d'un coup il reprend sa forme. Maintenant que je sais, tout va bien, j'arrive à communiquer sur mes idées, à pas rester comme une cruche dans un coin. Ça n'empêche pas certains conflits, forcément.
« Les adultes surdoués sont des personnes d'une curiosité insatiable et d'une mémoire exceptionnelle. Lucides, perspicaces et hypersensibles, ils ont développé une grande réceptivité à tout ce qui les entoure. Monique de Kermadec, psychologue clinicienne et psychanalyste, auteure du livre « Adultes surdoués », les fréquente depuis 25 ans.
Un adulte surdoué est tout d'abord quelqu'un qui surprend un petit peu son entourage. Les personnes remarquent une différence, une façon particulière de gérer le quotidien, un regard particulier sur le monde. Le surdoué lui-même peut se sentir aussi en décalage avec ce monde.
Et qu'est-ce qui se passe si la surdouance n'est pas reconnue à temps ?
Il peut y avoir une souffrance parce que cette différence n'est pas nécessairement perçue comme quelque chose de positif. Il peut y avoir une culpabilité liée à cette différence et la personne se met en retrait et se déprime progressivement. La première aide, je dirais, c'est la reconnaissance. La famille, les amis, les proches peuvent aider un surdoué en encourageant la personne à s'engager dans de nouvelles voies. Parfois, ceci ne suffit pas car la personne doute énormément d'elle-même et à ce moment-là, un thérapeute peut être la personne qui l'aidera à reconsolider une image positive de lui-même ou d'elle-même.
Un thérapeute ou un groupe de ses semblables. Les personnes à haut potentiel ont besoin de rencontrer d'autres surdoués pour se reconnaître dans leur regard et se sentir exister. Les jeunes de Mensa France aiment se retrouver pour des discussions autour d'une bonne table. Lorsqu'un journaliste est là, Nicolas, Agnès, Julia, Jérôme et Jacques ont envie de parler de l'image que la société se fait d'eux.
Moi, je dirais qu'on transitionne du génie qui a peut-être des problèmes à l'adulte qui est finalement assez normal et
voilà, on est en train de passer ça, ouais.
Qui a des soucis comme tout le monde. Et je pense qu'on est en train d'aller vers une image de gens plus normaux. Quoi.
On est passé d'un égalitarisme très français où tout le monde devait être égaux. Donc forcément, il n'y avait pas de surdoués, il n'y avait pas de gens débiles. Tout le monde était égaux à quelque chose où tout le monde peut être quelqu'un de différent. On est passé en fond d'un égalitarisme politique en quelque sorte ou historique à quelque chose où bon, finalement, ça peut être accepté. C'est une différence parmi d'autres.
Moi, je suis plus mitigée. Il en reste encore des images quand même bien ancrées. Peut-être pas dans les institutions, mais en tout cas dans la population, ouais.
Même chez les surdoués, on a encore l'image du petit génie qui joue du piano et qui fait de l'informatique. Même entre nous, on a encore du mal à le croire, pour nous-mêmes.
Même quand on a réussi les tests, on n'est pas encore légitime, de toute façon.
Et effectivement, intégrer Mensa et rencontrer d'autres surdoués, c'est ce qui me fait accepter tous les jours, un peu plus, cette légitimité. C'est comme ça que je me reconnais et que j'accepte qui je suis.
Si le surdoué est différent, ce n'est pas tellement parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il a une intelligence qualitativement différente. Dans son livre « Trop intelligent pour être heureux », Jeanne Siofachin, psychologue praticienne, parle d'un système de pensée très singulier.
Lorsque on a ce profil de haut potentiel, le cerveau fonctionne autrement. C'est-à-dire qu'une personne entende ou voit quelque chose, l'ensemble des zones de son cerveau vont s'activer simultanément. Ce qui conduit ces personnes-là à prendre en compte, dans un laps de temps très rapide, une multitude d'informations. Un peu comme si vous étiez bombardé et assailli d'informations qui arrivent de tous les coins de l'environnement autour de vous. Et au milieu de tout ça, il faut arriver à mettre du sens. C'est une forme de pensée qui crée énormément d'intuition, beaucoup d'intelligence fulgurante, qui s'assortit toujours d'une très grande sensibilité, d'une très grande réactivité émotionnelle. Les Américains, et je trouve ça très juste, décrivent ça comme « intense world syndrome ».
Il n'est pas simple de gérer cette intelligence et cette sensibilité hors du commun. Souvent, l'ennui guette l'adulte surdoué, comme il guettait l'enfant précoce.
Il faut trouver notre nourriture intellectuelle. On est affamé intellectuellement. C'est vraiment avoir de quoi penser.
On aime chercher. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la littérature. C'est toujours une recherche, en fait. Je crois qu'on regarde toujours qu'il y a un point et on essaie de savoir ce qu'il y a derrière le point au loin. En dévidant un fil, on arrive sur un autre, sur une pelote, etc. On n'arrête pas de dévider constamment.
Moi, je pense que j'ai un peu tordu le cou à l'ennui, en fait, dans ma vie. En me disant, je voulais un métier qui m'apporte autant que j'allais lui apporter. Je suis traductrice, ça veut dire que je change de sujet à peu près 3 fois dans la journée. Donc j'ai mon côté intellectuel qui est plein. Je me suis engagée dans l'association Mensa, donc ça m'occupe aussi, c'est très créatif. Et puis j'ai pris l'habitude de faire plusieurs choses en même temps parce que je sais que c'est comme ça que je m'ennuie pas et que ça fonctionne très bien et que plus j'en fais, plus j'arrive à en faire. Donc au final, je pense que j'ai pris des habitudes très tôt en fait.
Les individus à haut potentiel ont besoin de s'investir dans un travail ou dans un projet très personnel. Monique de Kermadec a rencontré des surdoués dans toutes les classes sociales et dans toutes les professions.
J'ai trouvé des personnes dans tous les domaines. Certaines personnes avaient un travail manuel, par exemple, un travail manuel qu'ils aimaient. D'autres avaient des professions qui étaient le fruit de très longues études. J'ai trouvé des personnes qui, au cours de leur vie, ont aussi évolué. Lors d'une interview, j'ai découvert par exemple un jour une femme médecin qui avait fait ses études pour faire plaisir à sa famille et qui a renoncé à la pratique de la médecine pour se lancer dans l'artisanat d'art. Elle aimait beaucoup travailler avec ses mains et se sentait beaucoup plus heureuse. Donc on voit des personnes qui viennent de milieux très différents avec des supports d'expression très différents.
Jonathan est pompier dans une entreprise. Il a abandonné les études à 16 ans. Ennuis à l'école, conflits à la maison, vie professionnelle chaotique. C'est seulement après avoir passé les tests d'intelligence qu'il a compris les raisons de son mal-être. Aujourd'hui, bien que sa situation ne corresponde pas vraiment à son quotient de 150, il se sent satisfait et se projette dans l'avenir.
Oui, elle me satisfait car elle est stable et ma société me propose des perspectives d'évolution. J'ai des responsabilités en tant que délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. De plus, ma société fait partie d'un groupe de sociétés et elle possède son propre centre de formation. Et donc, elle me propose des perspectives d'évolution, notamment pour devenir soit chef d'équipe dans mon métier ou bien cadre responsable de service en sécurité incendie.
Vos chefs sont au courant de votre surdouance ?
Non, pas du tout, non. Parce que j'ai un peu peur qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est.
Et maintenant, à votre travail, vous ne ressentez plus l'ennui que vous ressentiez quand vous étiez enfant à l'école ?
Non, parce que je fais ce que j'ai décidé. C'est moi qui ai choisi de faire le métier que je fais actuellement. Je ne ressens plus cet ennui parce que mon métier me permet de vaquer à mes occupations personnelles pendant ma journée de travail. Donc, en fait, j'ai la possibilité de surfer sur Internet. J'ai la possibilité de lire. J'aimerais reprendre des études, oui.
Pierre travaille dans un ministère où son fort potentiel intellectuel trouve son utilité.
Ça apporte un confort dans la mesure où vous traitez les choses facilement. Vous réussissez à faire progresser les dossiers qui vous sont confiés plus rapidement, plus justement. C'est agréable sur ce plan-là. Il y a une question de vitesse, mais aussi de champ, c'est-à-dire être en mesure de prendre une question vraiment sous toutes ses formes, y compris les plus inattendues. Vous faites un effort pour voir plus large, pour avoir un regard plus fin, une approche plus détaillée. C'est un avantage, ça peut être aussi un handicap. Dans la mesure où vous compliquez tout, vous coupez les cheveux en 4, en 12, en 30, enfin dans tous les sens, etc.
Aux États-Unis, les membres de Mensa sont fiers d'appartenir à cette association et n'hésitent pas à faire de leur quotient élevé un atout professionnel. Les jeunes surdoués français sont beaucoup plus discrets.
On n'a pas de place particulière, on est juste des gens qui, comme tout un chacun, cherchons à faire ce qui nous plaît.
Et dans la vie professionnelle, est-ce que vous vous sentez reconnu ?
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir ?
Moi, je trouve que ça a tout à voir. Il y a des barrières qu'on aimerait bien un peu transcender, mais la hiérarchie ne permet pas, la promotion ne permet pas, c'est comme ça, il faut attendre.
Est-ce que vous mentionnez l'appartenance à Mensa sur votre CV, par exemple ?
Ça dépend de la culture d'entreprise pour laquelle on postule.
Exactement.
Est-ce qu'ils sont ouverts à ce sujet ? Est-ce qu'ils ne le sont pas ? C'est une question de dosage. Est-ce que ça se sera bien pris ? Est-ce que ça sera mal pris ?
Moi, je n'ai pas eu l'occasion de me poser la question, mais je pense que je le mettrai.
Je l'ai mis, je suis même prête à le mettre vraiment en avant et à le dire carrément à mes clients. Enfin, moi, je travaille donc en indépendante. Parce que je retrouve aujourd'hui le même problème que celui que j'avais à l'école, c'est-à-dire que je finis avant les autres et qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen d'expliquer aux gens que je peux aller plus vite. Enfin, moi, mon problème, il est vraiment là.
Le problème est aussi plus général. Selon Monique de Kermadec, la société française qui valorise tellement études et diplômes est un peu embarrassée lorsqu'il est question d'intelligence.
Notre société est ambivalente. Notre société aime le talent, elle aime des êtres qui vont bien évidemment apporter quelque chose de nouveau, de précieux. En même temps, elle est parfois mal à l'aise avec ces personnes. Notre société aime la douance et en même temps en a peur. L'adulte surdoué doit gérer cette peur qu'il sent autour de lui. L'important, c'est qu'il arrive à rassurer les autres pour permettre à la société d'être moins craintive de ses dons, de ses talents.
Le regard que porte notre société sur les surdoués est important. C'est ce regard qui pourra donner sa place à chacun en fonction de ce qu'il fait ou pourra faire, mais surtout en fonction de ce qu'il est en réalité, avec ses forces et ses faiblesses. Les adultes surdoués, un reportage d'Anna Piekarek, réalisation de Marc Minatel.
Anna Piekarek, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors vous avez rencontré beaucoup de personnes surdouées, que l'on appelle ainsi à cause de leur quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qui frappe d'abord quand on discute avec eux ?
C'est surtout leur mode d'expression très rigoureux et leur désir de se tenir au plus près de ce qu'ils veulent dire. Ce qui est remarquable chez eux, c'est aussi la multitude de leurs centres d'intérêt, leur capacité à s'enthousiasmer et leur sensibilité à fleur de peau.
Alors, on les appelle surdoués, mais eux, ils n'aiment pas ce terme. Pourquoi ?
L'adjectif surdoué fait trop élitiste, il renvoie à une supériorité ou à un excès. Ils préfèrent donc être qualifiés de personnes à haut potentiel intellectuel, qui est l'une de leurs caractéristiques. Ils aspirent aussi à une sorte de normalité.
Alors est-ce que les tests de QI, un quotient intellectuel, mesurent vraiment l'intelligence ?
Ils ne mesurent qu'une certaine dimension de l'intelligence, que l'on pourrait qualifier de logique et mathématique. Ils ne mesurent pas l'intelligence dans sa globalité, qui est toujours complexe et multiple. Aujourd'hui, les chercheurs estiment d'ailleurs qu'il y a plusieurs intelligences mobilisées par chaque personne à des degrés divers.
On peut donc être, si j'ai bien compris, être surdoué dans différents domaines.
Oui, Monique de Kermadec, l'auteur du livre « Adultes surdoués » parle des surdoués dans le sport, dans les arts, mais également dans l'artisanat par exemple. Il y a aussi des surdoués de relations humaines. Leur réussite est moins le fruit d'un travail acharné que de capacités innées, à forte composante héréditaire.
Alors, ça ne fait pas très longtemps, finalement, que l'on parle en France des adultes surdoués. D'où vient ce retard par rapport à d'autres pays ?
Aujourd'hui, les enfants précoces à quotient intellectuel élevé sont diagnostiqués très tôt en France. Ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. C'est pour cette raison que beaucoup d'adultes découvrent leurs dons atypiques seulement maintenant, à l'occasion d'une consultation psychologique de leur enfant. Et nombreux sont sans doute ceux qui ignorent leur fabuleux potentiel.
Alors, cette question, ce sera la dernière. Est-ce qu'on reste surdoué toute sa vie ?
Oui, on est et on meurt surdoué. Le niveau de l'intelligence évolue très peu tout au long d'une vie. En revanche, nous savons que le score moyen obtenu au test d'intelligence s'élève régulièrement et de façon notable partout dans le monde. Cela veut dire que nous sommes plus intelligents que nos grands-parents et que nos petits-enfants seront plus intelligents que nous.
Ce sera le mot de la fin et moi je me sens moins sot. Anna Piekarek, merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons à la beauté.